Et à tous, bienvenue dans la locale, le direct d'information locale qui donne la parole aux habitantes et aux habitants du territoire. Vous êtes avec Karina. Sylvie n'est pas là exceptionnellement aujourd'hui et on lui envoie une grande salutation du studio de Radio BLV. Et pour la remplacer, Achille, carrément notre stagiaire de 3e qui nous vient du collège Loubet. Bonjour Achille.
Bonjour Karina.
Comment ça va ?
Très bien.
Une grande première pour toi d'animer une émission de radio en direct ?
Oui.
Oui, hein, j'imagine.
Complètement.
Bravo pour le courage. Alors Achille, qu'est-ce qui est prévu au sommaire de ce mercredi 3 mars ?
On va d'abord parler des droits des femmes avec Cathy du Witch Block de Valence par téléphone. On va ensuite parler du projet de ville de Valence pour verdir ses rues avec Nancy et Massin, conseillère municipale en charge des espaces verts. Bonjour.
Bonjour.
Et pour finir, on parlera avec Claire Lavessière, présidente d'Agir contre le cancer, qui présentera les nombreuses actions organisées par son association et avec qui nous parlerons. Mars Bleu, bonjour.
Bonjour.
Et pour commencer, nous sommes donc avec Cathy du Witch Block. Bonjour Cathy.
Bonjour.
Tu nous entends bien ?
Oui, très bien.
Ok, il y a un écho étrange, mais bon, j'espère que...
Ah, désolée.
Non, c'est pas... ça vient pas de toi. J'espère... Ah voilà, ça va mieux. Cathy, peut-être pour commencer, le Witch Block, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde connaît. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, alors le Witch Block, donc ça veut dire bloc de sorcière, hein. Witch ça veut dire sorcière en anglais. La sorcière c'est un personnage que nous en tant que féministes on revendique de plus en plus parce que finalement c'était des femmes au Moyen-Âge et un peu plus tard qui étaient surtout libres et un peu affranchies des hommes, ce qui ne plaisait pas aux hommes. C'était notamment des femmes qui soignaient les autres femmes par des plantes, qui des fois faisaient des avortements, qui aussi simplement vivaient vraiment au quotidien sans hommes. Et donc ça ne plaisait pas aux hommes. Et c'est beaucoup pour ça qu'elles ont été maltraitées, brûlées, etc. Et donc c'est vraiment un personnage qu'on décide de retrouver en tant que féministe pour montrer que oui, on voudrait vivre en étant affranchi du patriarcat, donc pas affranchi des hommes, hein, c'est vraiment deux choses différentes, mais on voudrait pouvoir simplement avoir une égalité des droits de fait, voilà. Et donc oui, il y a aussi les Witch Blocs en fait ont été créés dans les années 60, hein, c'était les premiers mouvements féministes qui partaient des États-Unis. Du coup voilà, ça, c'est un double hommage en fait, le fait de s'appeler Witch Block. Donc il y en a quelques-uns en France. Et nous, donc on est un groupe féministe, mais aussi queer. Voilà, c'est aussi important parce que on est autant de groupes qui souffrent vraiment du patriarcat. Donc en tant que femme, en tant que personne LGBT, on souffre beaucoup d'une différence d'attitude, hein, vis-à-vis de nous. Voilà.
Est-ce que c'est particulier au groupe de Valence d'être aussi queer dans le Witch Block ou est-ce que c'est en général
C'est en général, oui.
D'accord.
Voilà, c'est beaucoup ça. Et aussi, en général, c'est... donc là, je ne parle pas en tant que tous les groupes de Witch Block qui existent en France, mais souvent, on est aussi défendre les droits des travailleurs du sexe, par exemple, aussi.
Et qu'est-ce qui vous particularise ? Parce que des groupes féministes, il y en a énormément, et tant mieux, d'ailleurs. Et par rapport au groupe du Witch Block, quelles sont, vos caractéristiques particulières ?
Par exemple, par rapport à des associations comme Nous Toutes ou des choses comme ça, vous voulez
ouais.
dire c'est un plus, hein. Disons que c'est aussi une façon de dire que on est un peu plus péchu, on va dire quoi. Par exemple, quand on fait des manifestations, on ne déclare pas, parce qu'on estime que puisqu'on n'a pas les mêmes droits que les hommes, on n'a pas non plus à. Enfin, de fait, on n'a pas les mêmes droits actuellement. Il n'y a pas de raison qu'on s'astreigne à déclarer des manifestations, puisque finalement, le code civil, il a été mis en place par des hommes et on est quand même très invisibilisés. Donc voilà, on s'autorise des choses comme ça parce que justement, on est un collectif, on n'est pas une association. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut, en fait. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes plus radical?
Oui, voilà, oui, c'est ça. On est plus radical.
Et d'un autre côté, tu es colleuse aussi.
Oui, c'est ça, oui. je colle aussi des messages. Mais en fait, c'est un tout, hein. On ne s'oppose pas non plus aux autres groupes féministes. Il faut que tout existe, en fait, pour défendre nos droits. En fait, il faut qu'on coexiste toutes. Voilà, on ne défend pas forcément les mêmes choses, ni de la même manière, mais on existe toutes, donc en tant que colleuse, parce qu'il y a des messages, effectivement, qui rendent vraiment l'oppression visible, ainsi que les stéréotypes. C'est, par exemple, c'est important qu'on puisse voir affiché que le problème, c'est pas d'être habillé en mini-jupe, le problème, c'est le regard des hommes. Enfin, c'est récent, en fait, toutes ces phrases-là qui sortent, et c'est bien que les gens puissent les lire. Donc c'est vrai que les collages, c'est important aussi, en plus des actions qu'on mène avec le Witch Blog. Donc on a relayé des différentes actions qui sont un peu nationales, comme le Je te crois en septembre, où on était plusieurs à porter des messages qui venaient de témoignages de personnes qui avaient été victimes de viol ou d'inceste. Voilà, donc c'est plusieurs événements qu'on fait qui coexistent à Valence maintenant entre les Witch Blog et les colleuses.
Oui, justement, par rapport à vos actions en tant que Witch Blog, est-ce que tu aurais des exemples de... Donc ça, tu m'as donné déjà un exemple, mais quel genre d'autres actions vous pouvez, par exemple, mener sur Valence?
On a aussi fait en juillet une manifestation pour réclamer la démission de Darmanin, qui venait juste d'être nommé... ministre de l'Intérieur, parce que justement on estime que c'est un symbole vraiment fort envoyé aux féministes. C'est quand même un homme qui est accusé de viol, donc présomption ou pas, c'est quand même un message assez incroyable envoyé aux féministes, alors que les droits des féministes, les droits des femmes étaient censés être une grande cause du gouvernement. On a aussi fait un rassemblement pour un fémage, on dit, pour les 100 victimes des féminicides en 2020. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un message à dire, c'est que c'est beaucoup moins, le nombre de victimes de féminicides en 2020 était beaucoup moins important que les années précédentes, et tant mieux. Et c'est peut-être justement parce qu'il y a beaucoup de mobilisation en ce moment, il y a peut-être aussi plus de personnes qui parlent, il y a des choses qui bougent, mais je voudrais vraiment dire que ça vient pas du gouvernement, qui essaye un peu de ramener ça à lui. Le gouvernement fait pas grand-chose au quotidien pour les femmes victimes de violences, mais je pense qu'il y a une mobilisation qui se fait. Il y a aussi peut-être des femmes qui osent plus parler, des voisins aussi qui osent plus venir à l'aide, peut-être aussi des hommes simplement qui réalisent enfin certaines choses. Donc c'est plutôt une réussite des groupes féministes, hein, et on espère vraiment que ça va durer. Enfin, de toute façon, chaque femme qui est tuée par son conjoint, son ex-conjoint, c'est une femme en trop. Voilà, donc on reste mobilisé là-dessus. Et puis là, le 6 mars, on va donc faire on est en train d'organiser avec les féministes de créer une manifestation qui sera à Cré. Donc c'est pour le 8 mars en fait, mais le 8 mars tombe un lundi cette année, donc c'est la journée pour les droits des femmes. Donc j'insiste, c'est pas la journée des femmes, c'est pas un jour où on doit nous offrir des fleurs ou nous inviter au restaurant, bon, même si c'est fermé en ce moment, c'est vraiment une journée pour défendre nos droits. Donc du coup je lance aussi un appel aux hommes, c'est important que vous soyez à nos côtés. Alors pas ce jour-là, parce qu'on fait sans hommes cette manifestation, on fait en non-mixité choisie, c'est important que vous soyez là, voilà, dans nos combats au quotidien.
Juste pour rappeler, donc la non-mixité choisie, c'est quand on décide de se réunir entre donc sans hommes ou sans personnes qui se considèrent hommes, on va dire.
Voilà, c'est ça, sans hommes, 6. C'est-à-dire le 6, parce que c'est pas évident comme notion, c'est le contraire de trans. Donc voilà, c'est-à-dire que les hommes trans peuvent venir, ou les non-binaires, etc. Mais donc pas les hommes cis, c'est-à-dire pas les hommes qui sont nés dans, enfin qui se reconnaissent dans leur corps biologique.
À quoi est-ce que ça sert de les exclure ?
Alors, la plupart des événements, on les fait avec eux, ils sont toujours les bienvenus. Là, c'est un jour où on en voudrait dire que la rue est à nous. C'est vrai qu'on a souvent peur, on est souvent quand même maltraité dans la rue, on se fait siffler, on se fait inviter, mais des fois de manière pas correcte en plus. Mais bon, on n'a pas forcément envie de se faire inviter tout court, on se fait donc insulter. La nuit, ben, on n'ose pas sortir, c'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est important les collages de nuit, pour montrer qu'on n'a plus peur, même si en fait on a peur en réalité. Donc cette fois-là, cet événement-là, c'est pour montrer que pour une fois la rue est à nous. Et c'est aussi, il y a aussi autre chose, c'est que donc moi je suis une femme cis et hétérosexuelle, donc j'ai vraiment l'habitude de vivre dans le regard des hommes et d'essayer de leur plaire, même si je lutte contre ça. Mais il y a toujours cette recherche de l'accord, de l'aval des hommes. Souvent aussi les hommes, ils ont beau être féministes comme mon mari, ils ont souvent leur mot à dire, ils ont toujours envie de rajouter quelque chose, et donc c'est important du coup de s'affranchir de ce regard au moins une fois dans l'année, voilà, d'être juste entre femmes ou entre queer, sans ce regard-là qui souvent est pesant en fait.
Et tu parlais de Darmanin tout à l'heure, de l'actualité, j'imagine que en ce moment il y a quand même beaucoup de révélations, est-ce que vous avez des commentaires par rapport à tout ça ?
Oui, alors c'est vrai que oui, il y a plusieurs personnalités là qui sont en train d'être accusées. Donc nous, on est toujours du côté des victimes. C'est tellement difficile d'être une victime de violence dans ce monde qu'on ne voit pas comment des femmes pourraient inventer ça. C'est vraiment très très marginal. Et donc on les soutient complètement, les victimes. Et ce qui est incroyable en fait en ce moment, c'est de découvrir surtout de plus en plus que le pouvoir, enfin c'est quand même beaucoup des personnes de pouvoir qui exercent une certaine influence, qui ont des comportements qui vont pas. Là je parle vraiment des hommes qui sont actuellement accusés. C'est des hommes qui ont un certain pouvoir dans leur milieu, que ce soit donc milieu politique, milieu du cinéma, milieu de la finance, milieu du sport, on découvre vraiment plein de choses en ce moment. Donc il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans notre monde pour que plein d'hommes se soient permis d'utiliser leur position pour imposer, pour essayer d'avoir des relations sexuelles avec des femmes. Alors après, évidemment, il y a toujours la question de elles ont fini par céder. Oui, mais céder, ça ne veut pas dire qu'elles étaient tout à fait d'accord. Elles étaient souvent sous influence, elles avaient peur, etc. Il est temps de mettre ça sur la place publique, ce qui est fait en ce moment. Et il y a beaucoup d'hommes aussi qui commencent à réaliser de plus en plus que siffler une femme dans la rue, en fait, on n'a pas envie. Qui commencent à se remettre en question, notamment par exemple dans le milieu des pompiers, parce que donc il y a une histoire très sordide qui est sortie récemment, dont je ne vais pas en parler parce qu'elle est vraiment très très sordide et vous pourrez aller voir. Donc il s'agit de Julie, si des auditeurs ont envie d'aller voir, il s'agit de l'affaire Julie et donc il y a des syndicats qui ont commencé à expliquer, à prendre la défense de cette jeune fille en disant oui, il y a quand même un problème dans notre milieu qui est essentiellement masculin et on voudrait dénoncer ça, on veut plus accepter effectivement de baigner dans ce milieu qui est très sexiste, qui fait beaucoup de blagues sans arrêt sur les femmes, les homos, etc. Donc il y a vraiment une prise de conscience de plus en plus de plein de milieux, enfin de tous les milieux, de la part des hommes, et ça c'est important aussi que les hommes commencent à réaliser quelle oppression on vit quand même vraiment quasiment au quotidien en tant que femme. On s'en rend pas forcément compte non plus en tant que femme, mais il y a plein de choses qu'on accepte parce qu'on a toujours vécu dedans, depuis qu'on a 12-13 ans, on se fait siffler dans la rue, et je pense que c'est important que les femmes comme les hommes réalisent enfin que non, c'est pas normal en fait.
C'est à saluer aussi qu'un syndicat, effectivement le syndicat des pompiers, prenne position, c'est une évolution quand même importante. En trois mots, parce qu'il nous reste à peu près trois mots, Cathy, comment vous soutenir ou comment vous rejoindre ?
Oui, alors on a une page Facebook et une page Instagram, donc Witchblog Valence. Le Witchblog, en fait, c'est tous ceux qui veulent en faire partie. Donc si vous voulez nous rejoindre, venez. Et nous serons donc à Cré samedi à partir de 12h30.
Super, merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée. maintenant, Achille, quelques informations locales.
Demain, la Ligue de protection des oiseaux, LPO, aidera les élèves de l'école Armaillé qui participent au programme Refuge LPO à poser 3 nichoirs à l'île Parc Giraudet. Ce programme existe depuis 1921. Il a été créé par la LPO pour assister les habitants à protéger la nature dans leur jardin, dans leur entreprise, dans leur école et même sur leur balcon. Le principe est simple. Tout le monde peut s'inscrire sur le site refuge.lpo.fr. Ça coûte 35€ et puis on reçoit par la poste un coffret d'accueil contenant des conseils sur ce qu'il faut changer dans son jardin, un panneau et un nichoir pour mésanges bleus.
Merci beaucoup Achille. Donc rendez-vous demain à 10h à l'île Parc Giraudet devant le théâtre Le Rhône pour voir la pose des nichoirs avec Maëlle Lemaire, éducatrice à l'environnement pour la LPO, et David Wolf, responsable du secteur espace vert à l'île Parc Giraudet. Et maintenant, on va changer complètement de sujet et parler avec Nancy Massin, qui est conseillère municipale en charge des espaces verts du nouveau projet Végétalisons Valence. Bonjour Nancy.
Bonjour. Eh bien, le projet, donc, c'est bien le permis de jardiner. Le contexte, c'est que beaucoup de Valentinois nous demandaient de pouvoir participer à l'embellissement de la ville, de leur quartier, de leur trottoir, de leur façade. Et du coup, il y avait aussi une difficulté effectivement pour les jardiniers de la ville de Valence de jardiner dans le centre-ville, dans certains quartiers. Et du coup, il y a une envie de la municipalité, des services des espaces verts, de lancer ce permis de jardiner, une végétalisation participative à développer la nature en ville. Du coup, on a lancé sur le site internet une offre que les Valentinois vont pouvoir remplir. Ensuite, on va pouvoir leur répondre. Et d'ailleurs, depuis la municipalité, le maire de Valence, depuis déjà au moins 3 ans, accompagne des initiatives existantes. Il y a eu la rue Saint-James, il y a eu la rue des Ballets, il y a eu aussi la rue de la Fontaine. Il y a plus en plus de Valentinois qui nous demandent pour le compostage.
Donc c'est une tendance générale.
C'est vraiment une tendance générale, oui.
De plus en plus de verts qui s'immiscent dans la ville.
C'est ça.
Avec, justement, avec votre aide. Et ce projet, il concerne qui peut participer et pour faire quoi concrètement?
Tous les Valentinois peuvent participer, que ce soit les commerçants, les associations, les personnes qui ont envie, par exemple, de planter un arbre au pied de leur façade, qui ont envie de lancer un jardin partagé, qui ont envie de... Voilà. Et du coup, on les accompagne complètement. C'est-à-dire qu'on leur propose... Ils nous présentent leur projet. À ce moment-là, on se met en lien avec eux. On les guide un petit peu dans les choix, selon les emplacements, selon l'endroit. Et ensuite, on fournit les plans. Et puis après, c'est la personne qui doit vraiment entretenir l'endroit.
Oui, c'est important de le préciser, ça, parce que au final, végétaliser, oui, c'est une bonne chose, mais si sur le long terme, on s'occupe plus des plantes, ça dépérit.
Voilà,
donc il faut y penser.
Il faut absolument que la personne s'engage vraiment à entretenir le lieu après sur des années, effectivement.
Oui. Et vous avez un suivi un peu de ça ?
Il y a un suivi. Il y a des conseils, les espaces verts conseillent les gens. Effectivement, il y a un suivi, ils appellent et on se rend sur place et on les aide.
Donc, est-ce qu'une personne qui veut participer peut choisir n'importe quel endroit d'espace public? Comment est-ce que ça fonctionne?
Pas n'importe quel endroit, on ne va pas faire ce qu'on veut ou on veut quand on veut. Il y a un projet, on valide le projet ensemble et ensuite on y va.
Il y a des contraintes particulières à respecter?
Oui, ne pas planter n'importe quoi, ne pas s'étaler au-delà de ce qui a été prévu au départ. C'est quand même de l'espace public commun.
Oui, donc il faut prendre en compte qu'il est partagé.
Voilà, tout à fait.
Il n'y a pas d'espèce que vous refusez ou des choses comme ça, ou il y a des critères aussi là-dessus?
Alors, il y a aussi des critères sur les espèces, et c'est là où les équipes vont pouvoir vraiment partager avec la personne qui a envie de se lancer.
C'est ça, en fait, la personne propose le projet, puis vous le retravaillez ensemble.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Et donc, pour les infos pratiques, comment est-ce qu'on vous retrouve? Comment est-ce qu'on envoie sa
participation? Alors, il faut aller sur le site de la ville de Valence. On remplit un questionnaire.
Valence.fr.
Valence.fr. On remplit le questionnaire. Et ensuite, les services rappellent les personnes par rapport à leur projet.
Ok, c'est si simple.
C'est assez simple.
Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter par rapport à ça?
Ben, je trouve que c'est vraiment important que les gens aient envie d'embellir la ville avec les services de la ville. Je crois que ce qui est important, c'est vraiment ça, c'est de favoriser la nature, la biodiversité, ensemble.
Et est-ce que vous, je ne sais pas, chez vous, vous verdissez aussi?
Alors moi, j'ai un appartement, donc c'est un petit peu compliqué, mais je trouve que c'est passionnant. En plus, les équipes de la ville sont faites de gens passionnés. Et du coup, c'est vraiment intéressant de travailler ensemble, oui.
Et du coup, par rapport à la passion, qu'est-ce qui vous a amené aux espaces verts?
Alors, les élections, déjà, les élections. Et je pense que c'est vraiment une passion de la nature en ville, effectivement.
Vous auriez un exemple de participant qui vous a proposé un projet?
Alors, par exemple, dans la rue des Ballets, c'était vraiment très intéressant. Parce que les gens, comme j'habite au centre-ville, les gens me croisent et m'ont souvent interpellée en disant « Mais c'est vrai que la rue Saint-James, il y avait déjà beaucoup de rosiers. » Je ne sais pas si vous connaissez la rue Saint-James. Mmh. C'est une rue piétonne et il y avait déjà beaucoup de rosiers. Les gens avaient planté. Et rue des Ballets, beaucoup de personnes m'ont interpellée pour qui avaient envie de le faire. Et effectivement, on a monté ce projet ensemble. On a rencontré les gens souvent, on a planté ensemble, il peut y avoir des enfants. Enfin, c'est vraiment passionnant.
C'est convivial.
Oui, mais c'est très convivial.
Et est-ce qu'il y a un délai où on peut proposer ces projets sur le long terme, à n'importe quel moment?
Non, non. Pour l'instant, il y a 34 demandes sérieuses auxquelles on va répondre et les gens avec qui on va se mettre en lien. Mais il n'y a pas de délai dans le temps, non, non.
Donc ça ressemblera à quoi, Valence, dans les années futures, si on l'imagine?
Encore plus beau.
plein de verdure. Merci beaucoup.
Ça. Merci à vous.
Et puis, on va continuer sur les informations locales. La Drôme est passée en vigilance Covid renforcée. Les données sanitaires actuelles confirment une recrudescence préoccupante de la circulation du virus dans le département. Sur 100 000 habitants dans la Drôme, 227 sont positifs au Covid. Donc, c'est un taux en légère baisse, certes, mais qui reste le deuxième le plus élevé de la région, après le département du Rhône. On a aussi 39% de cas qui correspondent aux variants britanniques et 1,5% de variants sud-africains et brésiliens. Ces taux restent toujours plutôt bas par rapport à la région Rhône-Alpes et à la France. Mais voilà, là, on est quand même passé en vigilance Covid renforcée à Chille.
Le préfet de la Drôme a décidé de prendre de nouvelles mesures. Interdiction de l'ouverture des salles polyvalentes pour les activités périscolaires et extrascolaires. Suspension des nouvelles conventions de restauration collective signées avec les entreprises du BTP. Port du masque obligatoire dans l'ensemble des centres bourgs et des centres-villes. Augmentation des contrôles de police dans les communes les plus touchées. Multiplication des campagnes de dépistage dans les communes connaissant une surincidence. Communication sur l'obligation d'isolement de 10 jours pour les personnes contaminées et leurs cas contacts.
Merci. Ça fait drôle d'entendre cette liste prononcée par un jeune de 14 ans. Ça change. La préfecture rappelle aussi qu'il y aura une campagne de dépistage à Saint-Rambert-d'Albon qui a commencé déjà depuis hier. L'ouverture du centre de vaccination de Saint-Jean-Royan aujourd'hui et une campagne de dépistage dans le Royan à compter du 5 mars. Merci Achille. Et je me tourne maintenant vers Claire Lavessière, présidente d'Agir contre le cancer. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Très bien, je vous remercie.
Agir contre le cancer, c'est une association qui, maintenant, bon, qu'on ne présente plus, qui a déjà 10 ans, mais peut-être qu'on peut quand même rappeler quelles sont vos actions ?
Tout à fait. Donc, comme son nom l'indique, on agit dans le cancer. Et nous avons donc une convention avec les établissements de soins, l'hôpital de Romans, l'hôpital de Valence, l'hôpital de Cré et la clinique générale à Valence, où nous plaçons des intervenants qui sont rémunérés par l'association. Il y a aussi, dans le cadre de l'aide aux malades, des soins en ville. Pour vous donner un ordre d'idée, nous accompagnons plus de 1000 personnes par an à qui nous offrons, parce que nous faisons un point d'honneur à ce que tous nos soins soient gratuits. Donc on offre environ entre 4 et 5 000 soins par an. Donc ça, c'est le volet de l'aide aux malades. Ensuite, nous avons aussi pour mission de soutenir la recherche médicale. Donc chaque année, on verse un chèque important. D'ailleurs, Amandine, qui est chargée de communication, vous dira deux mots, parce que c'est demain que nous allons donc remettre un chèque. Alors c'est vrai qu'en cette période un petit peu difficile, il ne sera pas aussi important que les années précédentes, mais tout de même, ce sera 10 000 euros. Et comme on est une association qui ne dépendons pas de subventions, on est fiers de pouvoir justement remettre ces chèques importants. On soutient aussi un projet qui nous tient à cœur, c'est un projet pour les jeunes ados, parce que jusqu'à présent, les ados se retrouvent ou en service pédiatrique ou avec les adultes. Ils n'avaient pas véritablement une place à eux. Donc depuis 2 ans, c'est fait. Et on soutient et également on leur versera la somme de 10 000 euros pour les accompagner. Parce que c'est vrai que ben voilà, hein, tout le monde a besoin d'argent pour avancer. Mmh. Ensuite, on soutient aussi les aidants parce que ben, le malade est affecté, mais l'aidant l'est tout autant. C'est aussi difficile pour l'aidant que pour le malade. Trouver les mots qui conviennent, comment agir en conséquence, etc. Donc on fait tout notre maximum pour les accompagner. On leur ouvre également les soins. Ils peuvent bénéficier des soins gratuitement. Et puis on apporte aussi un soutien, hélas, aux endeuillés. Parce qu'on ne meurt pas que du Covid, hein, on meurt aussi du cancer. Voilà, donc, et la troisième mission que nous avons, c'est la prévention, avec notre slogan « Mieux vaut prévenir que d'avoir à guérir ». Donc on est très présent sur le terrain, et notamment en ce moment où c'est Mars bleu, prévention du cancer colorectal. Alors beaucoup pensent que Octobre rose, prévention du cancer du sein, c'est pour les filles, et que Mars bleu... avec la couleur, c'est pour les garçons.
En plus, le choix des rubans, oui.
Voilà. Et ce n'est pas du tout le cas, puisque c'est le deuxième cas de cancer chez la femme et le troisième chez l'homme. Donc, ça, Mars bleu s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. C'est simplement la couleur bleue, parce que s'il y a du sang dans les selles, la couleur se transforme en bleu. C'est pour ça qu'ils ont appelé Mars bleu. Voilà, donc on incite à la prévention parce qu'il y a très peu, il y a à peine moins de 30% de personnes qui assistent, qui participent plutôt à ce dépistage organisé qui est gratuit. Et c'est dommage parce qu'on pourrait éviter 40% de cas de cancer si tout le monde participait à ce dépistage organisé gratuit. Alors c'est vrai qu'avant, le test... pour parler de Mars bleu, il était contraignant. Il y avait des freins parce que c'était sur 3 jours, c'était pas évident. Et puis il y avait des faux positifs. À l'heure actuelle, le test est beaucoup plus simple. D'abord, il n'y a qu'un prélèvement. Et puis, il y a pratiquement plus de faux positifs. Et si jamais il y a du sang dans les selles, eh ben, on emmènera les personnes vers une coloscopie. La coloscopie, c'est pour trouver des polypes, et ce n'est pas parce qu'il y a des polypes que forcément ils seront cancéreux. Par contre, si c'est pris au tout début et très à temps, eh ben, on évite les cancers avec toutes les conséquences que cela a.
Oui, en fait, le travail que vous faites, finalement, c'est aussi énormément de prévention et c'est ça la base. Je vois Amandine qui fait oui de la tête. Bonjour Amandine.
Bonjour à tous.
Donc tu es chargée de communication auprès d'Agir contre le cancer.
Oui, et puis surtout militante pour ces valeurs et puis pour dire haut et fort, faites quelque chose, soyez à l'écoute et puis transmettez le message. Voilà, c'est vraiment ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est la prévention va vous sauver la vie de toute façon, ou celle d'un proche. Donc incitez vos proches aussi à faire ce dépistage. Et puis venez marcher tout le mois de mars avec les équipes d'Agir contre le cancer. Et apprenez. Voilà, on vous fournira de la documentation. Et puis vous avez toujours un bénévole qui est là pour transmettre la bonne parole, j'ai envie de dire.
Et quand j'entends toutes ces actions que vous mettez en place, cette association a l'air impressionnante. Ça ressemble à quoi, votre équipe ?
Alors, je vais prendre la parole là, si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée. D'abord, il n'y a pas que la prévention du cancer colorectal, il y a le sein, il y a aussi le col de l'utérus. On fait de la prévention solaire. Tout au long de l'année, nous sommes sur le terrain. Et on est à peu près 25 bénévoles sur le terrain. Et par contre, on mène plus de 50 actions par an. Voilà, on est aussi la seule association qui avons autant d'intervenants, aussi bien en Drôme qu'en Ardèche, puisque nous avons 20 intervenants qui sont rémunérés. Ce qui fait que les malades, ils oublient la maladie par le biais de ces soins. Et ce qui est vachement important à expliquer aussi, c'est que les médecins disent vous avez 50% de chances supplémentaires si vous participer aux soins. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que ces soins ne sont pas pris en charge par la couverture sociale. Donc ça fait une double peine si nous n'étions pas là pour pouvoir les offrir.
Effectivement, oui, c'est important de rappeler ça aussi.
On fait tout pour accompagner les personnes vers la guérison et je pense qu'on est bien dans notre rôle.
Et toutes les deux, vous mettez donc énormément de votre énergie dans cette lutte contre le cancer. D'où est-ce que ça vient ? Qu'est-ce qui vous apporte cette force de lutter comme ça ?
Alors, hormis l'historique de chacun personnel, on est tous touchés quelque part par personnellement ou par un proche par cette maladie. Je crois que ce soit Claire ou moi, on est toutes les deux dans la vie et on veut que ça continue pour tout le monde. Donc l'énergie, on la met là où il faut.
Et puis le message, c'est pas parce qu'on a le cancer qu'on va mourir, parce que c'était vrai avant. Maintenant, non, c'est un combat. Souvent, je me plais à dire aux personnes, il est entré, vous l'aviez invité. On me répond évidemment que non. Je dis, foutez-le dehors. Voilà, j'ai moi-même été touchée plusieurs fois par le cancer. Et donc, je suis la preuve vivante que si l'on combat, on peut s'en sortir.
Et justement, cette association a 10 ans, il a dû s'en passer des choses concernant le cancer en 10 ans. Quelle est l'évolution ?
L'évolution, elle est constante. C'est les chercheurs qu'on soutient parce que ça passe par eux de trouver le remède, etc. À l'heure actuelle, ils ont en plus trouvé avec l'immunothérapie un espoir supplémentaire. Donc faites des dons pour la recherche parce que c'est grâce à eux qu'on arrivera à éradiquer le cancer.
Donc, est-ce que le traitement s'est amélioré ?
Alors, je ne suis pas médecin, donc ça m'est très difficile de vous répondre. Il faudrait inviter ou un chercheur ou un médecin. Moi, mon rôle, c'est d'accompagner vers la guérison.
Et au niveau des cas de cancer, est-ce que ça a tendance à augmenter ou à diminuer ?
Alors, ça a tendance à augmenter. Et là où l'incidence qui augmente, c'est de plus en plus jeune. Voilà, avant, c'était plus tourné vers des personnes d'un âge certain, un petit peu mûr, mais maintenant, de plus en plus, ce sont des jeunes. Pour le cancer du sein, c'est des jeunes mamans. Oui, ça évolue. Et hélas, il y a encore beaucoup trop de personnes atteintes de cancer.
Est-ce que vous avez des conseils pour des proches de personnes malades ?
Alors écoutez, les conseils, on les donne à l'association. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus dur pour ceux qui accompagnent, c'est de trouver les mots. Parce que est-ce que la personne malade a envie d'en parler, n'a pas envie d'en parler ? Quels mots on doit employer ? Moi, si j'ai un conseil à dire, c'est qu'on est là. On est en vie. Rien ne doit changer. C'est pas parce qu'on est malade qu'on a envie qu'on s'apitoie sur notre sort. Au contraire, on a envie qu'on accompagne la vie. Et on est en vie. Et tant qu'on est en vie, conduisez-vous normalement.
C'est un hymne à la vie de vous écouter.
Mais c'est ça.
Et pour les malades qui nous écouteraient, est-ce que vous auriez des conseils aussi pour tenir le coup ?
Alors, justement, par le biais de nos ateliers, vous savez, il y a certaines personnes qui disent « Oh, moi, j'ai pas envie de venir dans les ateliers parce qu'on va encore parler de la maladie. » Mais c'est faux. On parle de la vie, on parle de projet. Comme je le dis, tant qu'on est sur pied, eh ben, c'est la vie qui prime. Et si vous veniez assister à un de nos ateliers, vous verriez que ça rit, ça rigole, et ça parle des enfants, de la cuisine. Je sais pas, on papote, on existe, on est là. C'est pas parce qu'on est malade qu'on est différent.
Et Claire, donc tu as traversé plusieurs fois cette épreuve. C'est quoi qui te faisait tenir à ce moment-là ?
Alors, vraiment, vraiment, l'entourage est très important. Voilà. Moi, j'ai la chance que c'est pas des cancers graves que j'ai eus. Hein, voilà. Mais pour tout le monde, on n'imagine pas à quel point l'entourage est important.
Le soutien.
Le soutien des nôtres.
Est-ce que vous avez des choses à rajouter, des messages à faire passer ?
Oh, mais bien sûr, on a plein. On a plein des messages, surtout sur les réseaux sociaux. Alors, Agir contre le cancer 26, la page, elle est facile à trouver puisque le logo jaune et bleu de l'association est facilement identifiable. D'autres réseaux comme Instagram pour les plus jeunes et qui sont curieux aussi. Et puis, on a un site internet, hein, www.acc26.fr, où vous avez l'ensemble des informations, des actualités, comment nous joindre, voilà. Et puis moi, j'ai quelque chose à annoncer tout de suite pour demain. C'est que demain, on va remettre justement ce chèque de 10 000 euros à la recherche. Pour le fait, on sera en lien avec un partenariat média, rtl.fr à Romans-sur-Isère. Donc, on va pouvoir retransmettre, comme ça, tout le monde pourra en profiter, ce chèque en direct. Et on aura une intervention de ce chercheur qui va nous expliquer un petit peu l'avancée des choses également. Voilà, des témoignages. On aura aussi la CEPAM, hein, qui est en lien avec l'association qui est partenaire d'ACC26, qui va témoigner pendant cette émission. Et plein d'autres informations. On aura d'autres marches tout le mois de mars. Il y aura également un concert en ligne, bien évidemment. Mais voilà, vous voulez passer un bon dimanche le 27 mars. Toutes les infos sur Internet également. Ce sera les Maloney Fipaji qui seront en direct, qui vont faire un concert pour vous évader. Donc, une petite pause dans le temps avec des chants polyphoniques facilement trouvables sur les réseaux. Pour la toute petite somme, vous verrez sur les réseaux, c'est tout simple. Vous pouvez faire un don, il y a un flash code. Tout est très simple. www.acc26.fr.
Et je voudrais rajouter qu'on est en partenariat avec le Centre de dépistage des cancers de Valence. Et c'est vrai que dans le cadre de Mars Bleu, pour avoir ce fameux test, il y a des personnes qui n'ont pas, à l'heure actuelle, de médecin traitant. Il y a beaucoup de difficultés à en avoir un. Et il y a aussi des personnes qui n'ont pas les moyens financiers d'avancer le prix pour une consultation. Donc, on a un questionnaire qui a été élaboré par le Centre de dépistage que l'on remet le temps sur nos actions, qu'on peut aussi envoyer par mail s'il y en a qui le souhaitent. Et ça permet de le remplir. On l'envoie au Centre de dépistage de Valence qui directement enverra un test à réaliser chez soi. Donc, il n'y a plus de frein.
C'est ça, aucune excuse.
Et est-ce que vous avez des dates pour les marches à venir au mois de mars ?
Oui, bien sûr. Alors, on aura certainement d'autres marches qui vont se greffer en plus de celles qui sont annoncées, mais on aura une belle marche importante à retenir. C'est le 27 mars pour terminer ce mois à Chatuzange-le-Goubet, donc un départ depuis le centre du village. Je crois que c'est le parking de l'école. Mais pareil, toutes les informations sont sur nos réseaux sociaux. Et c'est une marche qui sera soutenue par une autre association qui s'appelle
Zen Altitude.
Merci Claire.
Et merci à vous deux pour toute votre énergie et tous les gens que vous aidez.
Merci à vous de nous avoir permis de nous exprimer.
Avec plaisir. Et ça peut même devenir un rendez-vous régulier parce que des choses, voilà, il y en a à dire sur ce sujet. Il y a énormément de cancers et beaucoup, voilà, d'informations à partager pour sensibiliser.
Rendez-vous en avril.
Tout le monde, avec plaisir. Et pour finir, on retrouve encore Achille avec notre bonne nouvelle du jour.
En France, c'est 30 milliards de mégots de cigarettes qui sont jetés par terre chaque année. Rassurez-vous, c'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que à compter de cette année, les fabricants de cigarettes vont devenir responsables des mégots jetés par terre. C'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde.
Et cette décision vient de la loi sur l'économie circulaire de l'année dernière, de février 2020. Elle a été étendue aux fabricants de cigarettes qui doivent atteindre l'objectif de 40% en moins de mégots abandonnés dans la rue d'ici 6 ans. Et pour ça, ils devront par exemple distribuer des cendriers de poche aux consommateurs et faire au moins une fois tous les 2 ans une campagne de sensibilisation à l'impact environnemental des mégots. Parce que, rappelons-le, un mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau.
La deuxième partie de cette décision est la plus importante. Selon le principe du pollueur-payeur, la filière devra payer 2,08 euros par habitant et par an aux communes de plus de 50 000 habitants, 1,08 euros à celles entre 5 000 et 50 000, et 50 centimes aux territoires ruraux de moins de 5 000 habitants, mais 1,58 euros pour les communes touristiques.
Et autre décision, pour que les mégots soient moins nocifs pour l'environnement, les filtres doivent être davantage éco-conçus pour notamment contenir moins de plastique. Donc tout ça sera coordonné par un éco-organisme financé par l'argent des cigarettiers. Merci beaucoup Achille.
De rien.
Comment ça s'est passé cette première émission ?
Très bien.
C'est courageux, bravo à toi. Merci à toutes.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup.
À vous.
N'hésitez pas à repasser nous voir. Voilà, la locale, c'est fait pour ça. Et puis pour la suite des programmes, à 13h, on retrouve Innov Jeunes, l'émission avec le soutien de la CAF sur les jeunes qui réalisent des projets dans la Drôme. À 17h, ce sera le magazine Environnement de Radio BLV, la radio dans le pédalo, la rediff. À 18h, vous pourrez réécouter la locale, voilà, qui sera rediffusée, donc l'émission actuelle. Et 20h30, ce sera le direct de l'Oreille électrique, le magazine pop-rock. Bonne journée à tous et toutes.